Mémoire vive.
Présentée par Christelle Le Polotech.
Et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Sarah Feinberg pour son livre « Les discriminés, l'antisémitisme soviétique après Staline » paru chez Fayard avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Sarah Feinberg, vous êtes docteur en sciences politiques, vous enseignez à l'Université de Tel Aviv ainsi qu'à l'Université de Georgetown à Washington. Avec ce livre, Les discriminés, vous nous proposez une étude sur l'antisémitisme en URSS, depuis la mort de Staline jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique, une période finalement peu étudiée sous l'angle de l'antisémitisme, puisque, on le sait, les grandes purges, le complot des blouses blanches ont eu lieu sous Staline, et on vivait un peu dans l'illusion que l'antisémitisme d'État avait disparu avec lui. Votre livre montre que les choses ne sont pas si simples, même si on ne va plus assister dans les décennies suivantes à des scènes de violence comparables à celles qu'on a pu connaître dans les années 40 et 50. Alors votre livre évoque, convoque, pourrait-on dire, le souvenir du livre noir d'Ilya Ehrenbourg et de Vassili Grossman, mais aussi des romans comme ceux de Vassili Aksionov, puisque c'est bien sûr cette période de la révolution bolchevique, en passant par les années 30, puis par la guerre, et bien sûr la Shoah, qui constitue la mémoire de tous ces discriminés dont vous avez recueilli les témoignages dans votre livre. Cette mémoire juive qui est absente de la conscience collective russe, soviétique, puisque sans que les soviétiques aient jamais nié la Shoah, ils seront au contraire les premiers à la documenter, ils ont noyé les victimes juives au sein de la globalité des victimes de la terreur fasciste. C'est cette occultation qui a favorisé la perpétuation de l'antisémitisme en Russie, Sarah Feinberg ?
Cette occultation de la Shoah, c'était une des dimensions d'un antisémitisme qui était un antisémitisme institutionnalisé de facto. Il s'agissait d'un antisémitisme non officiel, non assumé. C'est tout le paradoxe et la difficulté à comprendre ce phénomène. Et j'essayais de mettre en relation l'occultation mémorielle de la Shoah, qui va donc se cristalliser vers 1943-1944, et puis dans les années qui vont suivre, avec des pratiques de discrimination des Juifs, à la fois dans leur profession et dans les études. Et cette mise en lien, c'est un petit peu le cœur de ce livre, essayer de comprendre comment une discrimination institutionnalisée de facto contre une minorité ethnique, s'est greffé à une discrimination mémorielle et comment les gens ont vécu et ont survécu un petit peu à cela.
Comment elle se traduit concrètement, cette discrimination ? Donc, votre livre, c'est à peu près de 1954 à 1989.
Donc, il faut d'abord savoir que les Juifs n'étaient pas les seuls discriminés. La société soviétique était une société de discriminés. Beaucoup de minorités ethniques ont subi des discriminations plus ou moins violentes. Et je dois dire que les Juifs ont subi parmi les discriminations les moins violentes de toute l'histoire soviétique. Si on analyse l'histoire des discriminations de la révolution bolchevique à l'effondrement du régime, je pense évidemment aux Polonais, aux Coréens, aux déportations de masse. Donc cette histoire, justement, c'est une histoire mineure. C'est une tragédie mineure, mais qui en même temps est majeure à mes yeux, puisqu'elle traduit une histoire d'antisémitisme d'État après la Shoah. Et c'est là où il y a une particularité des discriminations qui vont être perpétuées, puisqu'on a un groupe qui sort de l'expérience de la Shoah et qui, de nouveau, de façon tacite, informelle, sans que cela ne soit reconnu ni combattable, va faire l'expérience de discrimination. Donc voilà, c'est ça la particularité juive en URSS.
Sans que cela soit reconnu, il n'empêche que le complot des blouses blanches, c'était objectivement de l'antisémitisme d'État.
Tout à fait. Donc on a effectivement, Christelle, deux épisodes. On a un épisode d'antisémitisme d'État clair, officiel, qui va se développer de 48 à 53, où effectivement Staline introduit une politique d'antisémitisme d'État quasi officielle. Puis après, nous avons quelque chose de beaucoup plus pernicieux, qui sont des pratiques d'éviction des Juifs ou de limitation tant que possible de l'entrée des Juifs dans un certain nombre d'institutions, Alors qu'au même moment, l'antisémitisme et le racisme au niveau officiel sont combattus. Et là, si vous voulez, ce décalage entre une expérience de mise en marge silencieuse, de discrimination de bureau, si vous voulez, sans que soit évoquée forcément la thématique juive, et une condamnation officielle de l'antisémitisme, fait écho, peut-être parce que nous vivons en ce moment en France des événements dramatiques, fait écho à quelque chose qui ressemble à l'expérience des Juifs de France aujourd'hui, depuis la seconde intifada. C'est-à-dire une condamnation officielle très forte de l'antisémitisme, une critique d'Israël, et peut-être une certaine expérience de mise en marge silencieuse. Une certaine solitude des Juifs de France dont a parlé Shmuel Trigano. Et je vois dans ce laboratoire juif soviétique des échos qui me paraissent assez déroutants avec l'expérience des Juifs de France aujourd'hui.
C'est ce que vous notez dans votre livre, notamment un moment très difficile pour les Juifs soviétiques, ça va être la guerre des six jours, c'est-à-dire à ce moment-là, cette discrimination va être amplifiée. C'est-à-dire que le rapport à Israël va toujours être... pas forcément toujours, parce qu'en l'occurrence, l'Union soviétique aura été favorable au tout début à Israël. Ça va se retourner par la suite. Mais cette question d'Israël sera aussi importante pour la situation des Juifs soviétiques.
Oui, absolument. Tout d'abord, Israël a été le premier pays... L'URSS a été un des premiers pays à reconnaître de jure Israël, alors que les États-Unis le reconnaissaient de facto et ont soutenu énormément l'entreprise sionistes contre ce qu'ils appelaient l'impérialisme britannique. Mais après, effectivement, dans les années 50, les Juifs, qui étaient une minorité ethnique, diasporique, dans les années 20 et 30, vont devenir une cinquième colonne, clairement.
Parce que, excusez-moi, oui. C'est ce que je pensais au cinquième point, cinquième colonne qui renvoie... Voilà. Ça, c'est aussi une particularité très forte.
Oui, c'est une particularité très forte depuis l'introduction des passeports soviétiques en 1932. L'ensemble des citoyens soviétiques se voyaient assignés à une nationalité, c'est-à-dire une appartenance ethnique qui était déterminée selon les critères de l'hérédité. De l'hérédité parentale, c'est-à-dire qu'on avait un parent, un père ukrainien et une mère juive, l'enfant pouvait écrire qu'il était ukrainien ou juif. Mais si on avait deux parents de nationalité, d'appartenance ethnique juive, la personne se voyait consignée comme juive dans son passeport. Et donc, du coup, c'était un instrument tout trouvé pour pratiquer des discriminations au moment opportun.
Alors, j'aimerais qu'on revienne avec vous concrètement sur ces discriminations et surtout dans quel domaine elles étaient les plus fortes et pour quelles raisons. Cette volonté d'exclure comme ça les Juifs de certaines professions.
Alors, les Juifs donc, vont être exclus, comme vous le savez, du Parti communiste au moment de la campagne contre le cosmopolitisme. On a des purges très importantes à ce moment-là. Mais après, les discriminations vont toucher certains domaines particuliers qui étaient liés à la loyauté au projet soviétique, à la loyauté à l'État soviétique. Je pense en particulier au domaine du nucléaire. Il faut savoir que les Juifs aux États-Unis ont également subi des discriminations dans le secteur nucléaire dans les années 60 et 70. Je pense au domaine de l'enseignement de la philosophie, de l'histoire, parce qu'il s'agissait de l'enseignement du marxisme-léninisme et les Juifs étaient considérés comme ayant un regard nécessairement ironique ou décalé par rapport à cet enseignement-là. Donc il s'agissait des domaines liés à la loyauté idéologique à l'État soviétique. Ces discriminations vont être systématisées après la guerre des six jours, puisque les Juifs vont être perçus comme une minorité traîtresse en puissance. Et là, je voudrais également faire un lien. C'est au moment, si vous voulez, de la guerre des six jours que va être institutionnalisée une science qu'on appelait la sionologia en Union soviétique, c'est-à-dire une science de discrédit de l'entreprise sioniste. Et l'Union soviétique va être un pays phare dans la disqualification du sionisme. On pourrait quasiment dire que c'est le premier acteur du mouvement BDS dont on parle aujourd'hui. Ce sont les soviétiques qui ont poussé en 1975 à l'ONU à ce que le sionisme soit considéré comme l'équivalent du racisme. On a oublié cet épisode-là. Et c'est à ce moment-là que se crée un lien très fort entre un antisionisme officiel de l'État et des pratiques anti-juives sur le terrain. Et là encore, on pourrait, ça me fait écho en tout cas à la situation des Juifs de France, puisqu'en France, on a un discours depuis, disons, la première guerre du Liban, assez anti-israélien au niveau des médias et des politiques aussi. Et c'est à ce moment-là que les Juifs ont commencé à se sentir marginalisés, puisqu'on a commencé à parler de communauté juive. Mmh. Depuis la campagne électorale de François Mitterrand, les Juifs sont devenus une communauté à l'intérieur de la France. Et là également, on a un discours officiel qui est devenu assez antisioniste, sans la virulence soviétique, bien entendu, et en même temps une pratique ou un sentiment, en tout cas, de marginalisation des Juifs de France. Et là aussi, j'y vois un parallèle assez frappant.
Un parallèle assez frappant, mais malgré tout, cette discrimination... D'ailleurs, vous parlez de culture téléphonique à ce propos. Hein. Il n'y a pas d'ordre officiel, tout est fait...
Oui.
Ça, c'est quelque chose de très spécifique, quand même.
L'Union soviétique, tout à fait. Et exactement, il s'agissait...
C'est-à-dire de faire échouer aux examens des élèves les choses, d'origine juive.
Exactement. Au niveau de l'appareil du parti, il est quasiment impossible, si vous voulez, de trouver des consignes écrites de la discrimination. On peut la retrouver qu'à travers une étude des statistiques et des témoignages. C'est ce que j'ai fait. Et tout se faisait par oral. C'était une culture informelle de la discrimination anti-juive. Effectivement, entre le cas de la France et le cas soviétique, il y a un monde, puisqu'il s'agissait d'une discrimination institutionnalisée de facto. En France, il s'agit d'une marginalisation symbolique dans les discours. Effectivement, on n'est plus du tout sur le même plan, mais il y a des liens importants. Et dans un livre que j'écris aujourd'hui avec le professeur Yossi Shein de l'Université de Tel Aviv, nous appelons ça l'israélisation de l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme du XXIe siècle est devenu indissociable de la question d'Israël.
Justement, toujours dans ce... Peut-être de ce parallèle, quelles vont être les réponses, les solutions qu'ont trouvées les discriminés que vous avez, puisqu'ils sont à la fois dans la société et en même temps, pour beaucoup, dans la possibilité de poursuivre la carrière qu'ils auraient souhaité. Enfin, en tout cas, il y a une sorte comme ça. Parfois même d'autocensure, vous le dites. Ils ne vont pas passer certains... Ils ne vont pas essayer de postuler à certains postes parce qu'ils savent qu'ils ne l'auront pas.
On a souvent une position assez victimaire quand on parle de discrimination. Et surtout en France, la discrimination est toujours associée à une posture victimaire. Or, quand on étudie cet univers-là, on s'aperçoit que c'est un univers extrêmement créatif. Parce que pour répondre à la discrimination, les individus déploient toutes sortes de stratégies dont ils ne sortent pas forcément perdants. Les stratégies sont les suivantes. Il s'agit par exemple de changer de domaine d'études. Vous savez que les Juifs d'Union soviétique, autant ils étaient discriminés dans les domaines liés à l'idéologie de l'État, le Parti communiste, les grands professeurs d'université en histoire, en philologie, etc., autant ils étaient acceptés à bras ouverts dans toutes les professions techniques et technologiques. Puisque l'URSS, à ce moment-là, s'est engagée dans une compétition très forte contre les États-Unis. À la fin de l'ère soviétique, les Juifs se retrouvent en meilleure position pour garantir leur transition à l'économie de marché ou leur transition sur le marché du travail israélien. Ils étaient en majorité ingénieurs. Imaginez-vous une pelletée de professeurs du marxisme-léninisme, quel gâchis ça aurait été pour eux. Donc, dans ce cas-là, ça a été, si vous voulez, une posture gagnante. D'autres cas, il y a eu une forme de maranisme soviétique, c'est-à-dire que beaucoup de Juifs qui étaient issus de mariages mixtes, il faut savoir que les mariages mixtes se sont multipliés dans cette période-là, se sont fait passer pour des Russes ou pour des Ukrainiens. S'ils étaient nés d'un mariage mixte, ils choisissaient systématiquement l'appartenance ethnique de leurs parents non-juifs. Donc il y a beaucoup de maranisme et beaucoup de stratégies de réponse, beaucoup de migration intérieure aussi. Voilà.
Il y a aussi, de même qu'il y a eu un nombre important de Juifs dans les élites communistes d'avant-guerre, à l'inverse, un nombre très important de Juifs parmi les dissidents russes, certainement lié à cette exclusion, non ?
Oui, effectivement, dans le monde de la dissidence, on trouve un nombre très important de Juifs. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient convertis au christianisme comme double dissidence. C'est-à-dire, ils étaient par définition dissidents et marginaux en tant que juifs, Et beaucoup ont cherché dans le christianisme un moyen de se libérer du discours formaté du marxisme-léninisme. Ils voulaient retrouver la pureté de la langue russe à travers la langue des prières de l'Église orthodoxe, si vous voulez. Donc on trouve des cas de figure très beaux, magnifiques, comme celui du chanteur Galitch, donc un juif soviétique converti au christianisme, qui était le chanteur par excellence des dissidents. Voilà.
Il y a une autre solution que vont trouver ces discriminés, c'est l'immigration vers Israël ou les États-Unis.
Oui, alors effectivement, dans les années 70, commence un début d'immigration très importante en Israël. Vous savez que à l'époque, beaucoup de gens cherchaient à se marier avec des juifs pour pouvoir immigrer en Israël parce que seuls les juifs avaient la possibilité d'émigrer. Alors que beaucoup de minorités auraient aimé partir, je pense notamment aux Allemands de la Volga. Effectivement, on a un mouvement d'émigration. La première immigration sera une immigration idéologique, très sioniste.
Dans quelles années ça ? Est-ce que c'est, ça va évoluer chronologiquement ?
Voilà, l'immigration va commencer en 1971 et va être bloquée avec la guerre d'Afghanistan. Là, à ce moment-là, les soviétiques vont complètement fermer les portes à l'immigration et elle va reprendre tout doucement en 87-88. Il faut savoir que quand on présente souvent Gorbatchev comme un grand démocrate, mais il a laissé les portes fermées à l'immigration juive soviétique pendant 2-3 ans au début de son mandat. Voilà. Et après, à la fin de l'Union soviétique, on va avoir une immigration massive en Israël, qui ne sera pas nécessairement une immigration par choix, puisque à l'époque, il y a eu une négociation secrète entre Shamir et Bush, donc Bush le père, afin de fermer les portes des États-Unis aux Juifs d'Union soviétique et qu'Israël bénéficie de cette émigration afin de renforcer, si vous voulez, le contingent démographique juif de
Parce
l'État
que,
d'Israël.
Et effectivement, certains Juifs soviétiques arrivaient directement à Vienne, c'est ça? Et puis au lieu d'aller vers Israël, choisissaient de partir aux États-Unis.
Choisissaient de partir aux États-Unis. C'est ce qu'on appelait les drop-outs. Mm-hmm. Ce sont les gens qui sont partis aux États-Unis, à la grande colère des organisations juives israéliennes. Ma collègue Pauline Peretz a écrit un livre magnifique là-dessus qui s'intitule « Let my people go », où elle raconte cette histoire. Voilà.
Il y a aussi une question qui se pose encore aujourd'hui en Israël, c'est l'intégration des Juifs russes, qui est aussi liée à la définition du Juif en Union soviétique, c'est-à-dire qui n'est pas quiconque a un père ou une mère juive, c'est ça? Les Juifs, c'était comme ça, ce cinquième point, c'est comme ça que ça
voilà, la définition juive, la définition d'un Juif en URSS, c'était une définition biologique.
Et puis il y a deux mots.
Il y a juif ivré, qui est le juif ethnique, et yéhoudé, qui est le juif religieux, halachique. Donc, parmi cette émigration de juifs d'Union soviétique, il y avait à peu près 350 000 russes qui sont juifs ethniques, mais qui ne sont pas juifs halachiquement, c'est-à-dire qui ne sont pas nés d'une mère juive ou qui sont des conjoints de juifs. Et aujourd'hui, ce que je trouve très intéressant, c'est que grâce à cette minorité importante de non-juifs, c'est-à-dire des juifs qui sont juifs ethniquement, mais non-juifs halachiquement, en Israël se retrouve posé le débat de la laïcité et de la séparation de l'Église et de l'État. Et si vous voulez, les partis russes, le parti politique russe Avigdor Lieberman, a été un parti phare pour poser cette question. Vous vous souvenez autant que moi des épisodes éminemment douloureux de Russes tués au front pendant la Seconde Guerre du Liban ou tués dans des attentats qui n'ont pas été enterrés dans des cimetières juifs. Et ce sont des images qui ont beaucoup choqué la société israélienne. Et là, j'espère éminemment que les Juifs ethniques russes vont pouvoir faire bouger les choses en Israël. Voilà.
Toujours aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui de la mémoire de la Shoah en Russie et en Ukraine? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Sarah Feinberg?
Alors, la mémoire de la Shoah en Russie et en Ukraine a eu cette spécificité qu'elle est apparue au moment où on découvrait une autre mémoire. En Russie, la mémoire du goulag, et en Ukraine, la mémoire du Holodomor, de la grande famine ukrainienne. Et de ce point de vue-là, c'est une mémoire qui a à la fois été extrêmement rapide, puisqu'en 20 ans, une totale reconnaissance du génocide a été faite avec une documentation époustouflante, très impressionnante, mais en même temps, une mémoire qui a été entravée ou peut-être un petit peu étouffée ou recouverte par la priorité qui est aussi naturelle, qui a été donnée à une autre mémoire nationale, qui était la mémoire du goulag et la mémoire du Holodomor. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la mémoire de la Shoah reste au cœur de conflits politiques très importants. Il faut savoir que récemment, le gouvernement polonais n'a pas souhaité inviter officiellement la Russie à la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, alors que ce sont les Russes qui ont libéré le camp d'Auschwitz au cours de ces commémorations, afin, si vous voulez, de marquer leur réprobation contre la politique russe en Ukraine, puisqu'en Pologne, comme vous savez, il y a des élections présidentielles et parlementaires cette année, et les Polonais ne verraient pas d'un bon œil cette invitation faite à la Russie.
C'est-à-dire que le contexte politique actuel joue encore un rôle très important aussi dans l'édification de mémoriaux, de choses comme ça.
Oui, par exemple, on s'aperçoit que le vocabulaire de la Shoah, du fascisme, du collaborationnisme, a été un vocabulaire extrêmement prégnant dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cela a été le justificateur premier au niveau des discours, des déclarations de Poutine, pour lancer cette offensive armée en Ukraine, à la fois en Crimée et dans l'est de l'Ukraine. C'est curieux de voir que 70 ans après les faits, la mémoire de la Shoah, le vocabulaire de la Shoah est encore utilisé de manière incisive.
Mais dans quelle mesure vous avez des exemples concrets
Oui, par exemple, la condamnation, si vous voulez, de la révolution de l'Euromaïdan a été faite au nom du fait que ce mouvement était perçu comme récupéré complètement par les partis fascistes ukrainiens. Donc, tout ce mouvement révolutionnaire ukrainien est très officiellement interprété par les Russes comme un mouvement fasciste orchestré et dirigé par la CIA.
Voilà. Mais on est encore là dans cette sorte de mythe de la Grande Guerre patriotique, il y a peut-être plus que la Shoah,
oui,
non? C'est toujours ce poids très fort de...
Oui, mais en même temps, c'est plus compliqué que cela, parce que Poutine a utilisé ses juifs à lui, donc Berlazar, un des deux grands rabbins de Russie, afin de faire pression sur les juifs d'Ukraine. Et il y a une véritable guerre des mots qui s'est engagée entre les juifs de Russie, en tout cas les représentants des juifs de Russie, et les représentants des juifs d'Ukraine, qui ont dit « Vous n'entrez pas dans nos affaires intérieures, nous ne nous sentons pas menacés par le mouvement révolutionnaire ukrainien. »
Comme donc, Staline a pu utiliser certains intellectuels juifs, comme Vassili Grossman.
Oui, c'est une excellente comparaison. Effectivement, il y a une forme de mobilisation des bons intellectuels juifs contre les mauvais intellectuels juifs qui se laissent aller à la propagande américaine. Voilà.
Je vous remercie beaucoup d'être venue, Sarah Feinberg. Je rappelle que votre livre, Les Discriminés, paru chez Fayard avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, est disponible dans toutes les librairies. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoirevive.net. C'est bon. Alors on a encore 30 secondes. Mais...